Acte chapitre 8, et au verset 1er, regardez ce qu'il est écrit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. » Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de tout ce que vous m'avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. Et si nous lisons la suite, nous voyons que Philippe ne s'est pas contenté de vivre ces temps merveilleux dans la présence de Dieu, au milieu d'une foule qui était là dans la foi et dans toute cette ferveur qu'il devait y avoir. Il a été capable aussi d'obéir au Seigneur et d'aller à la rencontre d'une seule personne. Quelque chose d'incroyable. Mais pour une personne qui avait besoin du Seigneur tout simplement. Et Philippe, qui était à l'écoute du Seigneur, eh bien, il a fait ce que le Seigneur lui demandait. Cet après-midi, cette question que je vous ai posée, c'est la suivante. Quelle est la puissance de Dieu ? Dans ce passage, nous voyons différentes puissances qui se manifestent et différentes façons de les mesurer, ces puissances. Et nous voyons aussi qu'il y a la puissance de Dieu qui est décrite, tout simplement, au travers de ce que Philippe a fait dans cette contrée de Samarie. Quelle puissance se manifeste dans ce passage que nous avons lu ? Question, si vous avez suivi la lecture. Alors, bon, la puissance du Saint-Esprit, d'accord, ça c'est la bonne puissance. Hein. C'est bien, vous êtes spirituel, vous ne voyez que la bonne puissance. Mais on voit aussi des mauvaises puissances. Alors, dans les mauvaises, la magie, oui, la magie. Moi, j'en ai pris que deux. On pourra en voir d'autres aussi, mais j'en ai pris deux principales. Il y a la magie et il y a celle qui commence au verset premier. Le meurtre, mais qui est conséquence de quelque chose, c'est ce que j'ai appelé la religion, tout simplement. La tradition des hommes qui s'éloigne totalement de ce que Dieu avait pensé. Il y a la puissance de la religion. Et ma question pour la compléter, est-ce que la religion, c'est la puissance de Dieu ? Alors, je ne vous demande pas de répondre, puisqu'on va y répondre au travers de ce message. Est-ce que la magie aussi, c'est la puissance de Dieu? Et qu'est-ce que la Bible nous dit qui est vraiment la puissance de Dieu? Et ceux qui connaissent la parole ont déjà un verset qui leur monte par le Saint-Esprit dans le cœur, et c'est ce qu'on le lira tout à l'heure. Mais voilà, c'est important de répondre à ces questions, parce qu'on voit dans ces différents passages, ces versets, on voit qu'il y a des puissances qui se manifestent. Et avant de pouvoir rentrer dans cela, je voudrais vous poser encore une autre question. Comment mesure-t-on justement la puissance de quelque chose? Comment mesure-t-on la puissance de quelque chose? Alors, on va devenir bien plus concret, hein, parce que de manière théorique, on peut réfléchir longtemps, mais sans but. Par exemple, pour un moteur de voiture, comment on va mesurer que le moteur il est puissant? Oui, les chevaux, mais est-ce qu'on s'amuse à compter les chevaux dans le capot? C'est pas ça, hein. Moi, je ne suis pas capable. La force, et puis surtout, comment la voiture va être entraînée. Donc la vitesse de la voiture, une voiture qui a un moteur très puissant, va aller très vite. D'accord? La vitesse. Alors il y a d'autres, je ne suis pas mécanicien, je peux pas. Il y en a qui ont des appareils pour mesurer tout ça. Mais je vous parle beaucoup plus simplement, hein, parce que je n'ai pas le niveau du mécanicien. Pour mesurer qu'un moteur est plus puissant qu'un autre, c'est si la voiture va beaucoup plus vite qu'une autre voiture, on peut dire, bon, le moteur est plus puissant de cette voiture. Un autre exemple pour une lampe qui est plus puissante, comment on va le déterminer? Alors, c'est sûr qu'on peut prendre l'ampèremètre et mesurer le courant. D'accord, les électriciens savent très bien le faire. Mais on est d'accord que l'éclairage, l'intensité lumineuse qui se dégage de la lampe va pouvoir nous dire que cette lampe est plus puissante que telle autre lampe. On est d'accord? Maintenant, quelque chose de beaucoup plus renversant, l'explosif. Un explosif. Comment est-ce qu'on mesure la puissance d'un explosif? Et vous savez que malheureusement, dans l'actualité dans laquelle on est, il y a des personnes qui sont maintenant qualifiées dans cette mesure, cette quantification de la quantité d'énergie qu'il faut pour détruire certaines choses, parce que avec les actes terroristes qui ont eu lieu dans le passé, il y a des personnes qui étaient chargées de savoir quelle taille avait la bombe, pour faire l'enquête, pour retrouver les coupables, etc. La quantité. Et même ils faisaient l'estimation de la puissance en équivalent TNT. C'est-à-dire savoir combien de TNT pur il faudrait pour que ça provoque les mêmes dégâts. C'est une échelle de mesure. Équivalent TNT, peut-être, par exemple 7 kilos d'équivalent TNT. Mais vous voyez que pour ces personnes, pour mesurer la puissance de l'explosif, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, encore une fois, aux dégâts qui sont causés. Ils regardent combien de vitres ont été cassées, ils regardent à quelle proportion ça a été fait. Vous tous qui avez vécu à ZF, vous savez ce que ça signifie ces choses. Hein, j'ai pas besoin de vous les expliquer. En tout cas, en mesurant les conséquences, les dégâts qui sont causés par une explosion, on peut se rendre compte de ce qui a la puissance de l'explosif en lui-même. Et c'est une vérité qui est valable pour les moteurs, pour les lampes, pour beaucoup de choses, mais qui est aussi valable pour la puissance de Dieu. Et qui est aussi valable pour la puissance, que je vais appeler, entre guillemets, la puissance de la religion, la puissance de la magie, et la puissance de Dieu. Si on regarde aux effets, si on regarde aux conséquences, si on regarde à toutes ces choses, on peut se rendre compte de quelle est la puissance de ces choses. Vous comprenez? Alors cet après-midi, tout simplement, c'est ce que nous allons faire. Mesurer. Alors, avec les outils que nous avons, c'est-à-dire la parole de Dieu, mesurer, en premier, la puissance de la religion. Et cela se passe avec l'exemple d'un homme, qui va être connu par la suite comme étant l'apôtre Paul, mais qui maintenant, dans cette histoire, s'appelle l'apôtre... Enfin, pas, il ne s'appelle pas l'apôtre, on est d'accord? Il s'appelle Saul, le jeune homme Saul. Saul. Et quand on lit rien que le premier verset, on peut se demander, mais qui est cet homme? Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. On peut se dire, mais qui c'est cet homme? Est-ce que c'est un meurtrier? Est-ce que c'est un brigand? Si on ne lit pas la Bible, qu'on ne connaît pas cet homme, on peut se demander qui il est. Mais quand on lit, par exemple, il y a un verset dans Actes 22, quand Paul raconte lui-même son expérience avant qu'il rencontre le Seigneur Jésus, comment il se décrit? Voilà ce qu'il dit, Actes 22, verset 3. « Je suis juif, né à Tarse, en Sicile. » En Cilicie. Pas Sicile, hein. En Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui, il parlait à des pharisiens. Il parlait à des hommes qui aimaient la loi de Dieu. Et cet homme-là, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, c'était en fait un des plus farouches défenseurs de la loi de Dieu, un des plus farouches et fervents hommes de son époque, homme de loi, homme qui était plein de la connaissance de la loi de Dieu. Sûrement qu'il devait connaître des passages entiers, si ce n'est toute la loi en entier de Dieu, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Et pourtant, c'était un homme qui avait beau connaître cette loi, il ne connaissait pas le Dieu qui avait donné à Moïse cette loi. Il avait beau connaître la loi de Moïse par cœur, il ne se souvenait pas que Moïse, quand il a demandé à Dieu « Fais-moi voir ta gloire », Dieu lui a dit quelque chose. « Oui, je vais te faire voir ma gloire, et ma gloire c'est de te montrer. Je vais faire passer devant toi toute ma bonté. » La gloire de Dieu, c'est déjà sa bonté. Et quand on voit que Saul était capable d'approuver un meurtre envers quelqu'un, on peut se rendre compte de l'éloignement, le décalage qu'il y avait entre les choses qu'il connaissait par son intelligence, mais qui n'étaient pas dans son cœur. Les choses qui étaient dans son cœur, eh bien, dans le chapitre 9, on voit qu'il respirait la menace et le meurtre. Et on voit qu'il a fait toutes sortes de choses. Il ouvrait les portes des maisons. En plus, ça a été progressif. Parce qu'au début, il se contentait seulement de garder les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Et puis par la suite, c'est lui-même qui allait dévaster les maisons, arracher les hommes aux familles ou les femmes, peu importe, il les mettait en prison, il les séparait, il faisait quelque chose d'horrible. Il était un outil du diable, simplement. Et il le dira lui-même. Mais par la grâce de Dieu, il a été changé. Et même s'il avait Gamaliel comme maître, comme je vous le disais, Gamaliel c'était un des pharisiens, mais les plus sages et les plus intelligents de son siècle. C'était un des meilleurs maîtres que les personnes voulaient avoir, au pied duquel ils voulaient être instruits à l'époque. Les pharisiens, bien sûr, parce qu'il y en avait un autre à l'époque qui était encore mieux, c'était le Seigneur Jésus, que les disciples ont eu pour maître. Mais pour les pharisiens, il fallait être l'élève de Gamaliel. Et cet homme avait beau avoir le meilleur enseignant de la loi de Dieu, il n'avait pas Dieu lui-même comme maître. Il n'avait pas Dieu, cette relation avec Dieu particulière qui faisait qu'il pouvait comprendre véritablement ce qui avait été annoncé depuis des siècles et des siècles par les prophètes, c'est-à-dire la venue d'un Messie, la venue de Jésus qui allait souffrir. Avant de venir régner, il allait venir souffrir. Et ça, les pharisiens, ils n'admettaient pas. Lui qui était cet expert de la loi, il n'avait pas du tout entendu, ou on ne lui avait pas peut-être raconté cette parole de Jésus. « Vous êtes heureux si vous savez ces choses ». Pourvu que vous les pratiquiez. Et dans la loi, on voit bien qu'il est parlé d'aimer Dieu de tout son cœur et même d'aimer son prochain comme soi-même. Que Jésus a dit, c'est deux commandements les plus importants de tous. Ce n'est pas, par exemple, de guérir quelqu'un le jour du sabbat. Et il y en a qui ne voulaient pas faire ces choses. On en parlait jeudi soir, mais il y en a qui croyaient que si on faisait du bien le jour du sabbat, ce n'était pas bien parce qu'on faisait quelque chose. Que ce soit du bien ou du mal, il ne fallait rien faire. Vous voyez dans quel aveuglement, la religion les a trouvés. Et quand je parle de religion, je voudrais faire attention à ce mot que j'emploie, parce que la Bible nous parle d'une bonne religion. Cet après-midi, la religion dont je parle, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas la religion pure et sans tache dont nous parle la parole. Vous savez, la parole de Dieu nous décrit exactement ce qu'est la bonne religion. La religion pure et sans tache, dans Jacques chapitre 1, verset 27, il est dit « Devant Dieu notre Père, elle consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Ça, c'est la religion pure et sans tache, décrite par la parole de Dieu elle-même. Cet après-midi, je voudrais plutôt expliquer la religion, la mauvaise religion, celle qui a de mauvaises conséquences parce qu'elle est cette obéissance froide à des rites ennuyeux, totalement loin de la pensée divine. Elle est cette religion qui n'est pas pure et sans tache, mais qui est entachée de prescriptions humaines. Elle est mêlée de toutes sortes de choses qui sont en plus des intérêts personnels que ce que Dieu avait voulu et avait demandé à son peuple. Cette mauvaise religion-là, ben voyons, mesurons les effets ensemble. Qu'est-ce que c'est les effets? On les voit, la première chose dont on a parlé, qu'on a dit tout à l'heure, un meurtre. Le meurtre d'Étienne. Est-ce que Étienne, c'était un homme mauvais? Quand on lit les actes, les chapitres précédents, Ben déjà, c'était un homme qui servait des veuves qui leur servaient à manger aux tables. C'était quelqu'un qui avait un cœur de serviteur. Quelqu'un après qui parlait du Seigneur, qui parlait déjà de Jésus, qui avait cette bonne connaissance de Jésus, mais en plus il faisait avec efficacité, il était rempli du Saint-Esprit, rempli d'amour, de la paix, et il n'a jamais dit une parole méchante envers même ceux qui voulaient le tuer, et même alors qu'il était en train de le lapider, il a dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché », c'est juste au verset 60, chapitre 7. Vous voyez ces choses. Vous voyez que cet homme, il n'était pas rancunier, pas plein d'amertume, alors qu'ils étaient en train de le lapider quand même. On pourrait se dire, il y a de quoi. Mais non, cet homme, il a dit « Seigneur ». À l'exemple de son sauveur, Jésus qui a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Lui, il a dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et par la grâce de Dieu, alors qu'il était en train d'être lapidé, cet homme s'est endormi. Et pour moi, il manque le mot, même si je crois qu'il est sous-entendu, il s'est endormi paisiblement. Il y a eu un miracle divin qui a fait que cet homme s'est endormi alors qu'on était en train de le lapider, parce qu'il était au Seigneur, parce qu'il a vu la gloire de Dieu juste avant. Mais voilà la conséquence, une des premières images, un des premiers effets de la puissance de la religion, c'est que c'est quelque chose de destructeur, quelque chose qui apporte pas la vie, ça apporte la mort. Et la religion de Saul, ça a apporté le meurtre d'Étienne. Même si c'est pas lui qui, comme on le disait tout à l'heure, qui a jeté les pierres, lui, il était par contre participant de cette affaire puisqu'il gardait les vêtements de ceux qu'il faisait. Et il avait approuvé. Et je sais pas comment on qualifie dans la loi quelqu'un qui approuve le meurtre de quelqu'un d'autre, mais c'est autant condamnable que la personne qui commet le meurtre. On est d'accord? Ça se passe comme ça aujourd'hui normalement. Hein. Je ne sais pas les termes exacts, je ne suis pas juriste non plus, j'ai pas beaucoup de qualité. Hein. Mais je sais lire la parole de Dieu et être conduit par le Saint-Esprit, je crois que c'est le principal. En tout cas, cet homme, il avait approuvé le meurtre. Et il nous montre véritablement la puissance de la religion, c'est quelque chose de destructeur, c'est quelque chose qui apporte la mort. Deuxième effet, au verset premier, dès qu'il y a eu ce meurtre qui a été commis, il est dit, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église. Une grande persécution. C'est-à-dire qu'ils ont commis un meurtre et puis ils se sont mis à en vouloir plus, à vouloir faire plus de mal aux autres personnes qui étaient autour. Ils n'ont pas voulu faire du bien aux personnes qui les entouraient, mais un des effets de la religion, ça a été d'aller contrecarrer tous ceux qui disaient l'inverse de ce qu'eux pensaient. Il n'y avait plus de tolérance, il n'y avait plus de pensée, de conseil. Je suis là pour te conseiller, pour t'amener plus près de Dieu. Ce n'était pas ça, c'est tu crois ce que je crois moi ou alors tu meurs. Et vous savez qu'on a beau lire ces choses qui ont plus de 2000 ans, c'est quelque chose qui est encore très 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 actuel. Pendant les siècles, ça a beau eu changé de religion, parce qu'il faut être vrai, pendant quelques temps, ça a été le christianisme, qui a été bien sûr mélangé à des préceptes humains, ça a été le christianisme qui a été dans ce sens aussi. Il y a eu l'inquisition, en France on est bien placé pour le savoir. Si on a fait les cours d'histoire à l'école, on sait qu'il y a eu des temps très noirs, même concernant le christianisme. Bien sûr, il y avait des vrais chrétiens qui, eux, à cause de leur foi, se retrouvaient dans la même condition que ces personnes qui ont été persécutées. Ils se retrouvaient souvent sur les bûchers, on les accusait de toutes sortes de choses. Et combien de témoignages je lisais, quand j'étais enfant, je lisais des livres, des biographies de ces personnes, et combien de chants se sont ont pu monter alors qu'ils étaient en train d'allumer les bûchers. Et les personnes étaient en train de louer le Seigneur à ce moment-là. Je ne peux pas vous dire le spectacle que ça représente, mais ce sont encore des choses qui m'ont marqué dans mon enfance. Savoir que des gens qui avaient la foi en Dieu véritable, qui n'avaient pas une religion, mais qui étaient capables, même jusqu'au péril de leur vie, eh bien de louer le Seigneur et de dire « Le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ qui est venu sur la croix pour prendre mon péché. Et ce n'est pas par les œuvres que je suis sauvé, mais c'est par la grâce de Dieu tout simplement. » Et ces gens-là, combien ils sont des personnes qui nous encouragent. Et quand on voit ce qui s'est passé, on voit encore un effet de la religion. Eh bien, ça apporte la persécution, ça apporte le fait qu'ils étaient totalement dispersés. Il y avait une unité avant, il y avait toute l'Église qui était ensemble, et puis d'un coup, ils ont dû s'éparpiller. Ils ont dû aller chacun de leur côté. Ils ont dû sûrement être désespérés, découragés. D'ailleurs, on se rend compte que quand ils ont pris le corps d'Étienne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé de grands cris. Ils ont pleuré à grand bruit. Ils ont pleuré à grand bruit, Étienne. On se rend compte qu'il y avait une tristesse dans leur cœur. C'est normal face à un deuil comme cela. Il y avait une tristesse. Et voilà un autre effet de la religion. La tristesse. Quelque chose qui ne nous apporte pas le courage, qui ne nous encourage pas, quelque chose qui ne nous fortifie pas. Quelque chose, au contraire, qui nous met un poids sur les épaules. Quelque chose qui nous amène à croire qu'il faut faire toutes sortes de choses pour mériter le salut. Et puis finalement, on se rend compte qu'on a beau les faire, on le mérite malgré tout, on ne le mérite pas. On s'en rend compte. La religion. Oui, elle a de la puissance, la religion. Et Jésus, quand il était confronté à ce genre de personnes, il leur a dit des paroles tellement fortes. Matthieu chapitre 22, verset 29. Regardez ce qu'il dit. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et déjà, on peut commencer à répondre à cette question. Est-ce que la puissance de la religion, c'est la puissance de Dieu ? Alors, rien que cette parole de Jésus, on comprend très clairement que la puissance de Dieu n'a rien à voir avec la puissance de la religion. Vous êtes dans l'erreur, d'ailleurs, il leur dit, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous connaissez les Écritures, mais vous ne les comprenez pas, parce que vous ne connaissez pas celui qui a inspiré tout cela, celui qui est le Dieu de paix et de bonté, celui qui veut non pas apporter la tristesse, mais il veut apporter la joie, celui qui ne veut pas apporter le découragement ou la désunion, mais qui veut apporter au contraire l'unité. Combien c'est incroyable de voir que Dieu est capable de sauver des personnes au travers de toute la terre et de les rassembler dans des églises. Les églises, ce sont des endroits incroyables, parce qu'on voit qu'il y a des personnes de toute nationalité, de toute couleur, de toute langue, de toute origine, mais qui se réunissent et qui font partie de la même famille spirituelle. Et ça, il n'y a que Dieu, la puissance de Dieu qui est capable de faire ces choses. Dans le monde, on voit bien que quand on essaye de faire la paix les uns avec les autres, ça ne dure pas longtemps. Des fois, on y arrive, mais ça ne dure pas longtemps. Ou alors, on n'y arrive pas du tout. Mais Dieu est capable de mettre sa paix et de faire ce genre de choses. Et je réfléchissais à la puissance de la religion qui a permis, dans notre pays de France, de rendre certains proverbes tellement employé par les personnes. Ce proverbe que beaucoup de monde emploie, c'est « je suis croyant, mais pas pratiquant ». Cette religion qui a été capable, alors je ne parle pas seulement de la religion catholique, mais même la religion évangélique peut arriver à ce genre de raisonnement, si on se trompe. Hein. Ce n'est pas une question de dénomination dont je remets en question. C'est cette religion où on ne met pas de cœur, où on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande tout simplement, où on n'a pas la foi en Jésus. Voilà, je suis clair ? Bon. En tout cas, combien je suis effaré, combien je suis même attristé dans mon cœur quand j'entends le nombre de personnes qui sont capables de dire « je suis croyant mais pas pratiquant ». Et que c'est devenu quelque chose, une excuse, mais on a l'impression que c'est un argument du béton. Quand on le sort, « ah non mais est-ce que vous allez à l'église ?»« Ah non, non, je suis croyant mais pas pratiquant ». C'est-à-dire que tout ce que vous pourrez me dire par la suite, ça ne sert à rien, parce que ça c'est un argument magnifique. Réfléchissez un instant avec moi. On est capable de dire « oui, j'aime Dieu, je crois en Dieu, mais je ne veux pas faire ce qu'il me demande. Je ne veux pas faire ce que Dieu a écrit dans sa parole. Je ne veux pas, même pas connaître ce que Dieu a écrit dans sa parole. Ça ne m'intéresse même pas. Certains en sont jusque-là. Sont des fervents défenseurs de leur religion. Quelqu'un me disait, par rapport à sa maman, il me disait « cette maman, elle me dit tout le temps « je suis né catholique, je mourrai catholique ». Mais elle ne cherche pas à réfléchir si ça correspond, et elle désire pas du tout lire la Bible, par exemple. Il y avait en face de moi une personne catholique, mais qui avait compris que Jésus sauve et Jésus était puissant pour guérir, qui était en train de dire « mais ce qu'elle fait, c'est pas bien ». Vous comprenez ? On n'avait même pas besoin de lui expliquer, elle avait compris toute seule. Mais imaginez la puissance de cette religion qui a été capable pendant des siècles de faire monter ce raisonnement que je suis croyant mais pas pratiquant. Et j'imaginais un instant, quel père pourrait dire « j'aime mon enfant, mais je suis pas capable de m'occuper de lui, de prendre soin de lui, de apporter la nourriture, le logement, la sécurité, toutes ces choses. Ah, mais je l'aime, je crois qu'il existe, mais je m'en occupe pas. » Quel employé pourrait dire « ah, qu'est-ce que j'aime mon travail ?» Mais alors, quand il s'agit d'obéir à ce que mon patron me demande, « ah, mais ça, je ne le supporte pas, je ne suis pas pratiquant dans mon travail. J'aime mon travail, mais je ne pratique pas. » Quel mari pourrait dire « j'aime ma femme, mais je ne suis pas pratiquant. Je ne mets pas en pratique le mariage, je ne m'occupe pas de ma femme. On habite séparés, on ne se voit jamais, mais par contre, je l'aime. » La Bible, elle est claire quant à l'amour. J'aime aussi les définitions que la Bible donne de l'amour. L'apôtre Jean dit « n'aimez pas en parole, et avec la bouche, avec la langue, mais en action et avec vérité. À quoi sert-il de dire je suis croyant et pas pratiquant? J'aime Dieu, mais je fais rien de ce qu'il me demande. Sinon, que de se tromper, de se fourvoyer et de croire que cette foi-là, cette foi qui est tellement petite, tellement pauvre, tellement inerte devant le Seigneur, serait capable de m'amener dans le ciel? Est-ce que c'est cette foi-là dont la Bible parle? Non. La Bible nous parle de la foi, non pas dans nos œuvres, non pas dans nos mérites, mais la foi en Jésus, celui qui est parfait, celui qui a tout accompli et celui qui a payé le prix pour que nous puissions être sauvés. La puissance de la religion, donc, ce n'est pas la puissance de Dieu. La puissance de la religion, par contre, c'est l'aveuglement. Et Jésus a dit, concernant les pharisiens, « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Voilà ce que Jésus disait. Et ailleurs, il les appelle « conducteurs aveugles ». Jésus savait que la religion, la principale chose et la puissance que ça procurait la religion à quelqu'un, c'était une puissance d'aveuglement. La personne fermait les yeux sur la réalité de qui Dieu était. Au lieu de nous rapprocher de Dieu, la religion nous éloigne de Dieu. Au lieu de nous présenter un Dieu bon, compatissant, plein de miséricorde, elle nous présente un Dieu lointain, un Dieu qui ne veut pas s'occuper de nos problèmes, un Dieu qui est sourd à toutes nos sollicitations, un Dieu auprès de qui il faut s'efforcer pour pouvoir l'approcher. La Bible nous dit non, approchez-vous, simplement, avec assurance, un cœur sincère du Seigneur. Voilà ce que dit la Bible. Et combien nous savons que la puissance de Dieu, ce n'est pas cette puissance-là. Mais par contre, nous voyons dans ce passage que la puissance de Dieu, c'est de changer le mal en bien. Alors que croyaient ces pharisiens, seuls au milieu d'eux, croyaient qu'ils allaient pouvoir anéantir ce mouvement, cette secte qui semblait là commencer, qui venait mettre des freins à leur propre avancement. Dieu a permis que cette dispersion puisse procurer un réveil dans la Samarie, puisque Philippe est arrivé, sûrement à cause de la persécution de Jérusalem, est arrivé en Samarie et il a commencé à prêcher l'évangile. Pourtant, Philippe, quand on regarde son CV, il n'y a pas marqué « grand évangéliste ». Et vous savez que maintenant, quand on fait des cours dans les instituts bibliques, eh bien, quand on prend le moment où on parle de l'évangéliste, les ministères l'évangéliste, l'exemple qu'on donne toujours, c'est Philippe. Pourtant, quand on voit son CV, il n'avait pas grand-chose. C'était comme Étienne. Il servait aux tables. Il servait les veuves. Il donnait à manger. C'est rien du tout. Mais il avait un cœur rempli du Seigneur. D'ailleurs, quand on voit les personnes qu'ils ont choisies pour servir aux tables, ils ont dit qu'il fallait qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Déjà, c'était pas mal, hein, à l'époque, les critères. Et c'est déjà quelque chose devant le Seigneur. Est-ce que nous sommes pleins d'Esprit Saint et de sagesse? C'est la question qu'on peut déjà se poser chacun pour notre part cet après-midi. Regardez l'apôtre Paul, justement. Celui qui est devenu l'apôtre Paul. Comment Dieu l'a touché dans son cœur, comment Dieu l'a converti, comment Dieu a manifesté sa puissance dans sa vie en lui faisant réaliser que tout ce qu'il vivait jusqu'à présent, c'était de l'aveuglement. Parce que quand il a rencontré le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 jours, il s'est retrouvé aveugle. C'est comme si Dieu lui disait, tu vois, jusqu'à présent, cet état spirituel que tu avais, c'est l'état que tu vas vivre pendant 3 jours. Tu es aveugle. Mais moi, je veux t'éclairer. Et non seulement je veux t'éclairer, mais je veux me servir de toi pour que tu puisses ouvrir les yeux à d'autres. Quand il parle dans Acte 26 de son ministère, il dit « Dieu m'a envoyé pour ouvrir les yeux de ceux qui allaient croire au Seigneur ». C'est le ministère de l'apôtre Paul. C'est ce que Dieu, la puissance de Dieu cet après-midi, qui est capable à celui qui est aveugle, à cause d'une religion, à cause de quelque chose peut-être, à une pensée dans son cœur, capable de retrouver la vie, la vue et la vie. Vous avez compris. La puissance de la magie maintenant. Est-ce que la puissance de la magie, c'est la puissance de Dieu? Alors, ceux qui connaissent le Seigneur savent très bien la réponse. Mais est-ce que cette question déjà est d'actualité aujourd'hui, encore une fois? Est-ce que la magie, c'est quelque chose d'actualité ou dans notre société tellement matérialiste, tellement cartésienne? On se dirait, mais non, la magie, ça concerne l'époque, ça c'est l'Antiquité, mais c'est pas aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que, et vous l'avez remarqué d'ailleurs par vous-même, qu'on est en plein dedans. Je reprenais quelques statistiques très rapidement, mais 1 Français sur 6 fait appel à un voyant au moins une fois dans l'année. Donc, et il paraît que ces chiffres sont bien en deçà de la réalité. Le prix de la consultation, bien sûr, 50 à 90 euros. En moyenne, donc il y a plus, il y a moins. Mais bon, en moyenne, le salut de Jésus, c'est gratuit. Hein, ça, on le sait. Ces personnes qui vont voir ces voyants sont séduites et pensent que la voyance apporte quelque chose de positif. Et peut-être elle va leur donner l'impression de mieux maîtriser leur futur parce qu'elles vont connaître certains éléments. Ou elles vont leur donner un outil pour les aider à prendre des décisions parce qu'ils sont tellement indécis. Et il y a des personnes qui vont tellement voir les voyants qui sont accros même. Il y a des dépendants à la voyance et qui vivent dans le trouble continuel parce qu'ils ont peur de tout ce qui va arriver et ils passent leur temps à aller voir des voyants. Et il y a des personnes, il y avait un témoignage, vous voyez, c'était une vidéo sur une des chaînes télévisées, dans un journal, disait « Je viens, c'était un salon de voyance, je viens me faire aider. Je viens pour ma famille ou pour mon avenir professionnel. » Ça, c'était les pensées des gens qui allaient voir les voyants. Et en gros, pour résumer ce qui se passe dans le cœur de ces personnes, c'est qu'il y a une réponse à un besoin de spiritualité. Les gens ont besoin de revenir à quelque chose de spirituel. Dans ce monde tellement cartésien et matérialiste dans lequel on est, les gens ont besoin de revenir. Ils sentent qu'il y a quelque chose au fond de leur cœur qui ne correspond pas à seulement à ce qu'on voit. Ils sentent qu'il y a quelque chose de plus. Mais par contre, ils se trompent de chemin. Et le problème, un pasteur qui est bien au fait de ces choses, il disait que non seulement on ne maîtrise pas le futur, mais en plus, on subit des conséquences réelles. Et il y a tellement de témoignages. Je voyais hier encore un témoignage d'une personne qui a, dans l'ignorance totale, est allée voir un voyant. Et sans qu'elle s'en rende compte, pendant qu'elle parlait avec cette personne, le gars l'a hypnotisé et il lui a dit des paroles dont elle ne se rappelait pas exactement. Mais dès l'instant où elle a commencé à aller voir ce voyant, jusqu'à les jours qui ont suivi, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose de pas normal dans sa maison. Elle sentait son drap bouger dans son lit. Elle était à je sais pas combien d'étages et elle entendait quelqu'un qui tapait à son volet. Et il y avait toutes sortes de phénomènes bizarres qui se manifestaient. Et tout de suite, elle a fait le lien avec le moment où elle allait voir ce guérisseur ou ce voyant. Et bien sûr qu'il y a certains éléments qui correspondent à une réalité qui est faite. Je connais une personne dont la voyante lui a dit certaines choses et les choses se sont passées effectivement. Mais c'était des choses négatives, des choses mauvaises. Et quand on voit ce que la Bible dit de ces choses, on se rend compte que simplement c'est une malédiction quand on va voir de telles personnes. Vous vous souvenez de ce passage dans Deutéronome ? Je crois que c'est bien de le relire encore, même si on le lit régulièrement. Mais on est tellement dans un siècle où les gens sont trompés, sont faussés par des mensonges de l'adversaire, que c'est bien de savoir ce que Dieu lui-même dit de ces choses. Deutéronome chapitre 18 et le verset 9. On va se rendre compte que Dieu n'approuve pas ces choses, mais que beaucoup plus fort que ça, Dieu a ces choses en abomination. Deutéronome 18, verset 9, il parle bien sûr au peuple d'Israël quand il sera rentré dans son pays, le pays de la promesse. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Amen. On peut dire amen parce que c'est la parole de Dieu. Qui, cet après-midi, trouverait normal que je prenne mon enfant et que je le fasse brûler par le feu? Qui trouverait ça horrible? Moi le premier, hein? Rassurez-vous. Et si vous aviez cette idée envers mes enfants, vous aurez affaire à moi aussi. Parce qu'il faudra me passer sur le corps avant. Mais vous voyez à quelle échelle le Seigneur met la voyance et ce péché-là. Et c'est ce qui est bizarre dans notre monde d'aujourd'hui, c'est que, ah oui, faire brûler son enfant par le feu, c'est quelque chose d'horrible. Personne ne viendrait à l'idée. Par contre, allez vous consulter un voyant, un guérisseur, un astrologue, tout ça, c'est normal. Ça fait partie de la vie, c'est un petit plus. Oui, peut-être c'est un petit plus dans notre compréhension erronée de ce que dit la Bible, mais aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Et si nous désirons l'approbation de Dieu, nous avons besoin de revenir au Seigneur et de lui demander pardon. Et si nous sommes dérangés, peut-être quelqu'un est allé voir un voyant un jour et a ressenti depuis quelque chose qu'elle n'arrive pas à comprendre, peut-être c'est pas quelque chose de spirituel dans le sens qu'elle n'entend pas quelqu'un marcher sur son plancher. Mais peut-être que c'est quelque chose dans sa famille. Il y a une désolation dans sa famille. Les uns après les autres. Soit il y a des suicides, soit il y a des maladies, soit il y a toutes sortes de choses qui prennent place. Parce que quelqu'un a eu affaire à un guérisseur. Encore cette semaine, je parlais à quelqu'un qui me racontait que dans sa famille, c'était une catastrophe parce qu'il y avait une personne qui s'était mise pendant quelque temps avec un guérisseur. Et il n'y avait eu que des désolations qui étaient arrivées dans cette famille. Mais le Seigneur est plus fort et plus puissant. On sait très bien, par la parole de Dieu, on vient de le lire, que la puissance de la magie, ce n'est pas la puissance de Dieu. Mais par contre, la puissance de Dieu est bien plus grande, bien plus puissante que la puissance de la magie. Et dans Acte 8, c'est le monsieur Simon qui nous parle de cette puissance-là. Vous savez comment on reconnaît la puissance de la magie dans cet endroit de Samarie ? Il y a déjà ce premier effet que lui-même se disait un grand personnage. Il disait de lui-même, il se donnait lui-même pour un personnage important, comme on l'a lu. Et quand on réfléchit à ce que Jésus a fait, de quelle manière il est venu, est-ce qu'il se donnait pour un grand personnage, Jésus ? La Bible nous dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Est-ce qu'il est venu avec orgueil ? Il est venu avec faiblesse, il est venu avec humilité. Il s'est humilié, il est même devenu comme un serviteur pour tous les hommes. Voilà le Seigneur Jésus. Et vous voyez, la magie, ça nous montre déjà cet orgueil, ce fait de se dire « moi, je peux faire quelque chose », au lieu de dire « non, c'est Dieu qui peut faire quelque chose ». Des fois, les personnes sont sincères. Vous savez que même des guérisseurs, même des voyants, à cause de leur ignorance, sont sincères. Et quand on a l'occasion de parler avec eux, eux vont vous dire « mais moi, j'ai reçu une puissance de Dieu ». Cet homme, c'est ce qu'il disait, ce qu'il laissait dire aussi aux autres. Les gens étaient capables de dire « celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande ». C'était quelque chose d'étonnant. D'ailleurs, un autre effet, c'est qu'il y avait un grand impact, un grand étonnement, mais on ne voit pas, il n'est pas question de guérison, on ne sait pas ce qui se passait. Peut-être qu'il y avait des guérisons, peut-être qu'il y avait des signes incroyables. Mais regardez, je le lis pour vous dans 2 Thessaloniciens 2:9, regardez ce qu'il est dit, et ça nous concerne nous, ça parle de la fin des temps. Il est question de l'Antichrist, celui qui viendra, et on n'a jamais été aussi proche de sa venue. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes, et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et cet après-midi, je vous parle de la puissance de la magie. Un des effets de la puissance de la magie, c'est que c'est étonnant par rapport au miracle que ça procure, mais ça n'appelle pas du tout à la sainteté. Ça n'appelle pas du tout à la vérité de la parole, qu'il faut avoir une vie où on marche dans la sanctification. La puissance de la magie, ça vous dit, moi je peux vous aider, mais surtout changez rien à votre vie. Continuez à marcher dans l'iniquité, continuez à faire ce qui vous plaît. La puissance de guérison du Seigneur Jésus, elle est encore plus puissante, mais elle nous appelle à la sainteté. Elle nous appelle à l'obéissance. Elle nous appelle à la vérité. Elle nous appelle à marcher dans toutes ces choses-là. Et non, la puissance de la magie, ce n'est pas la puissance de Dieu. D'ailleurs, on le voit très bien que quand Simon a cru même au Seigneur, il a été capable de comprendre que Jésus était mort pour son péché. À un moment donné, il fait une demande particulière à Pierre et Jean. Il leur dit, si je vous donne un peu d'argent, est-ce que vous pouvez me donner ce pouvoir ? Accordez-moi ce pouvoir. Et littéralement, ça veut dire accordez-moi cette autorité. Cette autorité qui dépasse celle que j'avais moi jusqu'à présent. On peut le traduire comme ça. Hein ? Vous êtes d'accord ? Et ça nous montre que l'autorité de Dieu est beaucoup plus grande que l'autorité de la magie. Et même si ces choses il peut y avoir des miracles mensongers qui vont nous faire croire toutes sortes de mauvaises choses, qui vont nous détourner l'attention de qui est vraiment celui qui guérit, le Seigneur, lui, est plus puissant. Cet homme laissait les gens l'appeler la puissance de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Mais nous savons que ce n'est pas Simon qui est la puissance de Dieu. Nous savons que c'est Jésus qui est la puissance de Dieu. Nous savons que la puissance de Dieu s'est manifestée de manière incroyable à un moment dans l'histoire de l'humanité. C'est le moment où Jésus est mort sur la croix. Et maintenant, après avoir parlé de la puissance de la religion, la puissance de la magie, je voudrais parler de la puissance de Dieu. Et c'est le principal. Cet après-midi, retenez seulement ça. Le reste, tant mieux si vous l'oubliez. Retenez que la puissance de Dieu, que c'est le plus important. Quel verset vous aimantez dans le cœur quand je vous ai dit ces choses tout à l'heure. Alors, aidez-moi. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'Évangile encore? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un livre? Des fois, vous savez, les gens nous posent des questions bizarres. Est-ce que l'Évangile, c'est un livre que nous, les évangélistes chrétiens en France, on a écrit aujourd'hui pour... Non, l'Évangile, c'est un morceau de la Bible. C'est le message qui est contenu d'ailleurs dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament. L'Évangile, c'est simplement cette traduction du grec qui veut dire la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que Jésus a pris mon péché sur la croix, a pris le péché d'ailleurs de tous les hommes, et que ceux qui allaient croire en lui, ceux qui allaient se repentir, ceux qui allaient demander pardon pour leur péché, pourraient être pardonnés, pourraient être réconciliés avec Dieu. C'est ça l'Évangile. Et je n'ai pas honte de l'Évangile. Non, c'est une puissance de Dieu. Un autre verset nous dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ». Et c'est vrai que ceux qui périssent, ceux qui n'ont pas ses yeux ouverts, ceux peut-être qui sont aveuglés par la magie ou par la religion, eh bien, c'est une folie pour eux l'Évangile. Mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Pour nous qui avons cru en le Seigneur Jésus, c'est une puissance de Dieu. Marc, chapitre 2, verset 7, nous parle de ce que Dieu est puissant, ce que Dieu est capable de faire. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Disent les pharisiens, il blasphème. Jésus venait dire, ta foi t'a sauvé. Et tes péchés sont pardonnés, pardon. Il venait dire à un homme qui était paralytique, tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens disent, comment cet homme peut-il blasphémer? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Vous vous souvenez de ce passage? Et c'est vrai que Dieu peut pardonner le péché, mais il a envoyé un moyen pour qu'on puisse avoir notre péché pardonné. Juste après, au verset 10, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus a le pouvoir de pardonner notre péché si nous venons de tout notre cœur devant lui. Jésus a ce pouvoir-là. Qu'est-ce que Dieu peut? Une autre chose. Romains chapitre 4, verset 21. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que ce n'est pas simplement un verset que quelqu'un a besoin d'entendre cet après-midi? Dieu vous a fait une promesse. Ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Il est puissant, il est capable de le faire. Les hommes peuvent vous faire des promesses et ne pas les accomplir. Mais Dieu, ce qu'il va vous promettre, c'est impossible qu'il ne l'accomplisse pas. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Et il est le Dieu qui veut non seulement nous donner des promesses, mais les accomplir pour chacun de nous. Il veut nous affermir à celui qui peut vous affermir, à celui qui peut aussi vous préserver de toute chute. Et il est ce Dieu qui est capable de vous combler. Il peut vous combler de toutes ses grâces. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Dieu peut toutes ces choses. Voilà comment s'exprime la puissance de Dieu. La puissance de Dieu s'exprime par le pardon des péchés. La puissance de Dieu s'exprime aussi par une vie qui est totalement transformée. Et quand on lit l'exemple qui nous est donné, quand on mesure la puissance de Dieu dans ce passage, on se rend compte que Philippe, ce n'était pas lui qui était puissant. C'était le Seigneur qui travaillait avec lui qui était puissant. On se rend compte qu'il y avait, de grands cris. Il y avait des démoniaques qui poussaient de grands cris. Pourquoi? Parce qu'ils étaient délivrés, libérés de leur possession démoniaque. Peut-être que c'était justement des gens qui avaient beaucoup été étonnés par Simon juste avant, par ses actes de magie, et qui, de ce jour-là où ils ont été étonnés, ils ont subi des possessions démoniaques. Et combien, c'est des choses qui sont encore présentes. On se dit, ah, mais aujourd'hui, ça n'existe plus ce genre de choses. Mais je vous assure qu'on les voit régulièrement. On a des personnes qui se manifestent, qui manifestent un esprit méchant dans leur âme, quelqu'un qui les contrôle même, qui leur dit ce qu'ils doivent faire, certaines qui ont des voix qui leur parlent dans leur tête, et combien c'est des choses qui sont incroyables à vivre, qui sont mauvaises à vivre, mais que le Seigneur, lui, est capable de libérer, est capable de totalement libérer ce genre de personnes, délivrer ce genre de personnes. Deuxième effet, il y avait dans cette ville, quand Dieu agit au travers de Philippe, quand il y a la prédication de la croix qui a retenti, il y a eu une grande joie dans toute la ville. Il y avait des démoniaques qui étaient libérés, mais il y avait aussi des guérisons, parce que Dieu est le Dieu de la guérison. Et quand Dieu guérit, il ne déplace pas le problème comme le font souvent les guérisseurs. Si on a un problème physique, ça va devenir un problème moral, on va divorcer. Mais quand Dieu guérit, il guérit. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'effet secondaire. Même les médicaments qu'on prend, ils nous guérissent, mais il y a des effets secondaires. Mais quand Dieu guérit, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est la libération totale, c'est la délivrance totale, c'est la guérison. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris, nous dit la parole. Et il se faisait de grands prodiges, au point que celui qui provoquait l'étonnement de tous a été tellement étonné de ce qui se passait. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il y avait quelque chose qui le dépassait. Oui, la puissance de Dieu, elle est plus importante que la puissance de la magie. Elle est plus importante encore que la puissance de la religion. Elle est plus importante que quelque puissance que ce monde peut développer. Cet après-midi, nous voulons vous parler de cette puissance. La croix. Le Seigneur Jésus qui s'est donné sur la croix. À quelle puissance êtes-vous soumis cet après-midi ? Qui est votre maître ? Je vous pose la question et peut-être qu'on pourrait se recueillir pendant ce temps et réfléchir à cette parole que j'ai partagée avec toute simplicité. À quelle puissance suis-je soumis ? Est-ce que c'est la religion ? Je m'efforce de faire toutes sortes de choses, mais j'arrive pas à avoir cet amour véritable pour Dieu. Et au lieu de procurer le bien, je fais le mal. Et Paul a pu dire la même chose. J'essaye de faire le bien, mais j'y arrive pas, je fais le mal. Le Seigneur nous donne encore un effet de sa puissance, c'est qu'il veut nous remplir de son Saint-Esprit pour que nous puissions faire sa volonté, pour que nous puissions faire le bien, pour que nous puissions être des bénédictions autour de nous. Mais la religion, celle qui n'est pas pure, elle nous apporte que la destruction, que la mort. Alors cet après-midi, peut-être quelqu'un est sous cette puissance de la religion. Eh bien, revenez véritablement au Seigneur. Demandez pardon pour votre péché, pour votre aveuglement, parce que vous ne vous rendez pas compte du chemin que vous empruntez, mais vous êtes en train de faire le mal autour de vous, parce que ce n'est pas la puissance de Dieu sous laquelle vous êtes. Venez vous réfugier sous la puissance de Dieu. Venez vous humilier à la croix. Venez vous humilier à cet endroit où le Seigneur Jésus a donné sa vie. Venez vous humilier dans sa présence. Venez croire que votre péché est effacé par le sang qui a été versé. Venez croire que ce n'est pas vos mérites, ce n'est pas votre intelligence qui vous apportera le salut. C'est seulement la personne de Jésus. C'est lui qui est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Peut-être quelqu'un a été voir un voyant quelque temps en arrière et se retrouve avec des choses qui ne vont pas dans sa vie, qui n'arrive pas à mettre un nom dessus. Je vous le dis, c'est la puissance de Satan, c'est la puissance de la magie, c'est la puissance de toutes ces choses qui sont en abomination à Dieu. Dieu voudrait que vous soyez dans son approbation. Dieu voudrait que vous soyez réconciliés avec lui. Mais ça passera seulement par ce moment où vous allez demander pardon pour votre péché, où vous allez demander pardon. Et le Seigneur va être capable de vous libérer de ces liens, de cette servitude. Regardez Simon qui avait toutes ces choses dans son cœur. Son cœur était rempli d'iniquité. Son cœur était dans des liens d'iniquité. Mais pourtant, par la prière, il a pu être capable. Alors, la Bible ne nous dit pas la suite, mais on croit que s'il a fait la prière de tout son cœur, eh bien Dieu a été capable de le libérer. On a vu tellement d'exemples de personnes qui ont été délivrées de démoniaques, de personnes qui ont été délivrées des démons, pardon, de personnes qui ont été libérées dans leur famille avec toutes ces conséquences qui étaient néfastes parce qu'ils avaient vu un guérisseur. Le Seigneur est tout puissant. Cet après-midi, mettez-vous, placez-vous sous la puissance de Dieu. Faites confiance au Seigneur. Croyez qu'il est aussi ce Dieu qui guérit parfaitement, ce Dieu qui veut vous guérir, quel que soit votre état de santé, quel que soit ce que les docteurs peuvent vous dire. Dieu vous dit cet après-midi, moi je suis puissant pour te guérir, moi je suis puissant pour t'encourager, moi je suis puissant pour te donner la joie, moi je suis puissant pour t'amener plus loin, pour te permettre de faire le bien. Alors cet après-midi, mais simplement, venons dans la présence du Seigneur et repentons-nous et laissons le Seigneur agir par son esprit. Merci Éternel, merci pour ta parole, merci pour la prédication de la croix, qui est une puissance, Seigneur, pour le salut de quiconque croit. Tu vois les personnes qui désirent croire cet après-midi dans cette puissance, qui ont été déçues par toute autre puissance à laquelle ils ont pu goûter, Seigneur. Tu es capable cet après-midi, par la foi qu'ils vont mettre dans ta parole, Seigneur, tu es capable de les libérer de toutes ces puissances d'égarement, ces puissances d'aveuglement, Seigneur. Tu es capable de leur donner ta paix, de leur donner ton secours, de leur donner ta délivrance, de leur donner aussi ta guérison, parce que ta parole nous dit que tu fais ces choses. Simplement cet après-midi, je te prie pour que chacune de ces personnes qui fait appel à ton secours dans ces moments, dans son cœur, que tu puisses l'aider, Seigneur, à véritablement être touché par ta grâce, à être touché par ta puissance, être rempli et puisse développer cette vie nouvelle, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur,
Tu es ce Dieu qui est capable de nous préserver de toute chute. Tu es ce Dieu qui est capable de nous garder de la tentation, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant. Oui, Jésus, tu as été tenté comme nous en toutes choses. Voilà pourquoi tu peux nous garder de la tentation, Seigneur. Alors, cet après-midi, nous voulons te faire confiance et nous voulons te dire, Seigneur, oui, agis par ton Saint-Esprit et permets-nous de rester jusqu'à la fin de notre vie sous la puissance de ton Esprit et avec la puissance de ton Esprit dans notre cœur et dans notre corps, Seigneur. Merci, merci parce que tu as fait de nous, à tous ceux qui croient, le temple de ton esprit. Alors Seigneur, tu vois ces amis qui voudraient vivre ces choses, Seigneur. Touche leur cœur dans ces moments et bénis-les, Seigneur. Amen.